Ecclésiaste, un livre de Salomon. Salomon, le roi dont nous pouvons lire l'histoire dans le livre du mois de notre Église, ce mois-ci, c'est-à-dire le premier livre des rois. Alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Salomon a écrit ce livre à la fin de sa vie, une vie marquée à la fois par la grandeur. Salomon est le plus grand roi qu'ait connu Israël, et par la décadence. Le successeur de Salomon, Roboam, n'héritera que de la moitié du pays. Salomon, un homme sage qui fut l'auteur de quelques psaumes, des proverbes, du Cantique des Cantiques, et puis du livre de l'Ecclésiaste, mais qui n'a pas su mettre en pratique ce qu'il écrivait, enfin pas toujours. Salomon, donc, un homme qui nous ressemble malheureusement et qui a, sur la vie, des idées qui sont assez proches de ce qu'on peut penser aujourd'hui. Dans le 9e chapitre de l'Ecclésiaste, sur lequel nous allons nous arrêter ce matin, le vieux sage Salomon fait un constat sur la précarité de la vie. Alors, question. Qu'est-ce qui fait que pour vous, la vie sur Terre a un intérêt? Qu'est-ce qui fait que pour vous, la vie sur Terre a un intérêt?
On apprend, on progresse.
Ah, c'est parce que...
On apprend et on progresse.
Mais tu vas mourir.
Oui.
Tu n'apprendras plus.
Mais encore.
D'accord.
L'intérêt d'être en vie, c'est de ne pas être mort.
Oui, mais tu vas mourir. Oui, mais tu vas mourir. Oui, mais c'est vrai, mais tu vas mourir et tu la verras pas. Oui, mais tu vas mourir après. Oui, mais ce quelque chose va disparaître dans le grande chose de tout l'univers qui va exister et sur lequel ton temps de vie sera tout petit, petit.
L'intérêt, c'est que Dieu m'a aimé et qu'il avait donné quelque chose pour que je sois éternelle, même si je meurs.
Ah, alors là, tu commences à me mettre des notions qui commencent à devenir intéressantes, oui, c'est vrai, en effet, mais c'est ta pensée à toi. Maintenant, pour l'homme sur la Terre, X ou Y, quel est l'intérêt de vivre sur la Terre? De toute façon, mes chers amis, nous devons aboutir à la mort. Et donc, la mort, c'est l'aboutissement de la vie. Et la vie sur la terre, pour Salomon, n'a d'intérêt que si il existe une espérance. C'est ce que Vincent a essayé de nous faire percevoir tout à l'heure à travers ce chant. Et donc, dans ce 9e chapitre, sur lequel on va s'arrêter, donc, il nous dit qu'on va mourir. Et puisqu'on va mourir, eh ben, il faut profiter de la vie. Il faut profiter de la vie. Mais, parce qu'il est sage, il nous dit profiter de la vie avec sagesse. Et ça, c'est depuis le début du livre qu'il nous dit sagesse, sagesse, sagesse. Mais c'est quoi la sagesse? On reverra ça tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, examinons ce que Salomon nous dit au sujet de la mort. Je vous invite à écouter les versets 1 à 6, ou à suivre aussi dans vos textes. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. Que ce soit l'amour ou la haine, les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Tout arrive également à tous. Il y a un même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, pour celui qui est impur, pour celui qui offre des sacrifices, pour celui qui n'en offre pas. L'homme bon est pareil au pécheur. Celui qui prête serment à celui qui a peur de prêter serment. C'est un mal. Parmi tous ceux qui se fait sous le soleil, qu'il y ait un même sort pour tous. De plus, le cœur des humains est rempli de méchanceté et la folie habite leur cœur pendant leur vie. Après cela, ils vont chez les morts. Oui, pour tous ceux qui sont associés aux vivants, il y a une espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. Et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine et leurs ailes ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Salomon avait déjà abordé ce thème de la mort, et moi aussi par ricochet, lorsqu'on a abordé le chapitre 6. Il y revient en conclusion de son livre parce que ce sujet n'est pas sans l'interpeller, lui qui est maintenant vieux, et nous, parce qu'il paraît que le sujet de la mort interpelle 86% des Français qui s'y préparent en prenant des assurances vie ou autres, et ce serait sans doute 100% si tout le monde pouvait se permettre de prendre des assurances vie. La mort, je suis contre, a dit Woody Allen, un cinéaste américain que peut-être vous connaissez. Et il ajoute, tant que l'homme sera mortel, l'homme ne sera jamais décontracté. Beaucoup d'hommes, hier et aujourd'hui, et sans doute en faisons-nous partie, considèrent la mort comme un problème. Mais si on analyse les choses bibliquement, la mort n'est pas un problème. Elle est même la solution indispensable au problème de la vie. En effet, si la mort n'avait pas existé, les hommes seraient restés éternellement sur la terre. Mais ils seraient restés éternellement sur la terre, loin de Dieu. Et donc, en révolte contre lui, mais aussi contre eux-mêmes et contre leurs semblables. Vous imaginez une vie sur la terre comme celle-là? Une vie où la vie même serait impossible, il y aurait tellement de conflits. Et cette vie-là, ce serait terrible, on ne pourrait même pas se suicider. Et ouais. Donc, on peut comprendre pourquoi la mort existe. Mais on aimerait bien voir une logique dans la mort. Ainsi, on pourrait dire, bon, il y a la naissance, l'enfance, la vie adulte, puis quand on a 80, 90, 100, allez, là, on meurt. Ce serait logique. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça. La mort frappe à tous les âges de la vie et frappe tout le monde, dit l'Ecclésiaste. Aussi bien le juste que le méchant, le pur que l'impur, le religieux que le mécréant, celui qui prête serment et celui qui a peur de prêter serment. Et enfin, il ajoute, si pendant la vie on peut espérer, après la mort, il n'y a plus aucune espérance. Ce caractère illogique du moment où la mort frappe les individus peut provoquer des questions chez nous, chrétiens. En effet, comment comprendre, par exemple, que Dieu accepte qu'un couple de missionnaires qui vient de passer plusieurs années à se former pour un ministère d'annonce de l'Évangile dans un pays étranger, donc apprentissage du métier, mais aussi de la langue, etc., que ce couple arrive dans le pays et soit mis à mort 3 jours après leur installation. Comment comprendre Dieu? Nous n'avons pas de réponse, mais un jour nous saurons. Laetitia, la jeune fille dont on parle à la télévision depuis 2 semaines, violée et assassinée par un récidiviste qu'on n'a pas su surveiller, n'aurait jamais dû mourir si jeune. Et on peut comprendre pourquoi sa famille est révoltée, ou pourrait être révoltée. Salomon nous dit qu'il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi la mort frappe à tout âge, et j'ajouterai simplement qu'il faut se dire, un jour, je comprendrai. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. Avez-vous pensé à ce qui se passera une seconde après votre mort? Réponse, vous n'aurez plus aucune espérance. En effet, même si certains affirment qu'il y a un purgatoire, d'autres qu'il y a une deuxième chance, d'autres une réincarnation possible, Salomon l'affirme, après la mort, il n'y a plus aucune espérance. Et il dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Les vivants savent qu'ils mourront, les morts ne savent rien. Mais Salomon vit sur la terre, avant la venue de Jésus. Donc il faut garder en tête la conclusion de la parabole de Lazare et du riche. Quoique, la parabole de Lazare et du riche, elle est intéressante parce qu'elle nous montre quand même ce que pouvaient penser les hommes de l'Ancien Testament. Puisque Jésus a dit cette parabole avant d'être crucifié et donc de ressusciter. Donc, cette parabole de Lazare et du riche, elle est intéressante même pour comprendre ce que pouvaient penser les hommes de l'Ancien Testament au sujet de l'espérance qu'ils pouvaient avoir après. Alors, je vous invite à lire dans Luc au chapitre 16 pour vous rappeler un petit peu de cette histoire qui montre bien quelle espérance pouvait avoir un homme de l'Ancien Testament. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque matin menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham lui répondit, « Mon enfant, souviens-toi que quand tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne, maintenant il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. La conclusion de cette parabole du riche et de Lazare nous montre qu'il est de loin préférable de vivre pauvre sur la terre et riche au ciel que le contraire. Maintenant, avez-vous pensé à ce qui se passera une seconde après votre mort? Est-ce qui se passera une seconde avant votre mort? Eh bien, jusqu'à cette seconde, il y a en chaque homme la conscience de l'éternité. Et donc, pour ceux qui le veulent, il y a l'espérance d'une vie éternelle avec Dieu. C'est ce que Francine a un petit peu souligné tout à l'heure. Mais si c'est vrai, cette espérance jusqu'à la dernière seconde, c'est, il me semble, qu'il est bien préférable d'avoir cette espérance plus tôt dans la vie, parce que ça rend cette vie beaucoup plus passionnante. Mais Salomon ne pouvait pas en parler, puisque cette connaissance est le privilège de ceux qui sont venus, qui sont nés après la venue de Jésus. Autre question, savez-vous quand vous allez mourir ? Alors Francine, notre doyenne, qui n'est pas là ce matin, mais que je suis allé voir hier, quand on arrive dans sa maison pour la visiter, elle nous dit, moi, mourir, eh bien, le plus tôt possible. J'aurai 90 ans le 29 mars. Ça, c'est ce qu'elle dit au début de la visite, à la fin de la visite. Elle dit que si on pouvait fêter son anniversaire le 29 mars, bon. Donc, elle n'est pas si... bon, voilà. Mais, toujours est-il que quand même, au début de la visite, elle dit que le plus tôt possible. Mais, qui sait si plusieurs d'entre nous ne disparaîtront pas avant elle ? Est-ce grave ? Oui. Si nous n'avons pas reçu de Dieu la promesse d'une vie éternelle avec lui. Mais non, si nous savons que Christ est mort pour nous et que notre péché, parce que nous sommes pécheurs, je ne l'oublie pas, ne peut pas faire obstacle à une vie éternelle avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on continue à faire des péchés qu'on se privera de l'éternité. Alors peut-être vous demandez-vous, où allons-nous vivre la vie éternelle ? Je n'ai pas de réponse satisfaisante à cette question et en lisant l'Ecclésiaste, je n'ai pas non plus trouvé de réponse à cela. Par contre, et ce sera la deuxième partie de ce message, Salomon nous dit, puisque vous êtes vivant, profitez de la vie. Versets 7 à 12. Va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans la gaieté, puisque Dieu prend déjà plaisir à ce que tu fais. Qu'à tout moment tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donnée sous le soleil. Pendant toute la durée de ton existence fumeuse, car voilà quelle est la part dans la vie, dans la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. À fond, la forme. C'est la télé qui dit ça. Pub pour Décathlon. Mais c'est aussi Salomon qui ne veut pas voir les enfants de Dieu tristes parce qu'ils ne savent pas ou ne veulent pas profiter des plaisirs de la vie. Puisque tu as ce qu'il te faut pour manger, mange. Pour boire, bois. Pour te réjouir, réjouis-toi. Puisque tu as une femme ou un mari qui t'aime, eh bien, aime. Tu as la vie, eh bien, profites-en, dit l'Éternel. Sous-entendu, prends ça comme un cadeau de Dieu. Il n'y aura, mes amis, aucune prime dans le ciel pour ceux qui font de la terre une vallée de larmes. Pour ceux qui se flagellent en croyant plaire à Dieu. Pour ceux qui se privent pour accumuler un magot qu'ils n'utiliseront pas. Au verset 9, Salomon dit que la vie sur la terre est sans consistance, l'existence sur la terre est fumeuse, mais pendant que nous y vivons, profitons de ses bienfaits. On peut ne pas être tout à fait d'accord avec Salomon lorsqu'il dit que l'existence sur la terre est sans consistance ou fumeuse. Hein. C'est la pensée de Salomon parce qu'il est dans cet état d'esprit-là. Mais moi, je ne pourrais pas dire ça, par exemple, aujourd'hui, par rapport à la vie merveilleuse que je vis. Mais on peut comprendre que Salomon dise cela et que d'autres aussi pensent comme ça. Maintenant, faire une prédication sur le thème « Allez mes amis, profitez de la vie », ça peut avoir un caractère choquant. Et comme je ne voudrais choquer personne ce matin, je m'interrogerai sur... Mais qu'est-ce qui peut... Pourquoi ce serait choquant? Eh bien, tout simplement parce que pour beaucoup, profiter de la vie, c'est être égoïste. On a ce qu'il nous faut, pourquoi s'en faire? Et parfois même, un peu au détriment des autres. En 68, on disait, la propriété, c'est du vol. Donc, on peut bien prendre ce qui se trouve à côté de nous et dont on a besoin. Ce n'est évidemment pas ce que recommande Salomon. De même, lorsqu'il dit qu'on peut se réjouir en buvant, il n'est pas en train de préconiser l'alcoolisme. Ce serait en effet une grave erreur de dire cela, car pour certains, profiter de la vie en buvant, c'est se faire du mal. Donc, ce n'est pas profiter de la vie. Si je bois de l'alcool sans me rendre compte que celui-ci devient un besoin, je ne suis pas en train de profiter de la vie, je suis en train de me suicider sans le dire. On est en train là de préparer une pièce qui s'appelle « L'hôtel des deux mondes » d'Éric Emmanuel Schmitt. Et dans cette pièce, les personnages se répartissent en deux catégories. Les victimes d'accidents, donc ils sont dans un hôtel entre deux mondes, c'est-à-dire qu'ils sont dans le coma. En fait, ils ne sont pas complètement morts, mais bon, ils sont entre deux mondes. Est-ce qu'ils vont sortir du coma et vivre sur la Terre, ou est-ce qu'ils vont mourir? Et donc, dedans, il y a des gens qui ont eu des accidents, qui ont été malades, etc. etc. Bon. Et donc, parmi les personnages, il y en a un, le personnage principal, qui a eu un accident de voiture et qui a donc eu un accident de voiture, il est dans le coma, et donc dans l'hôtel entre deux mondes. Et ce personnage, qui s'appelle Julien, eh bien, il considère qu'il y a deux couloirs. Il y a le couloir de ceux pour qui la vie, ça a été... L'arrêt dans la vie, c'est un accident, et l'arrêt dans la vie, c'est volontaire, un suicide raté. Et donc Julien, lui, il pense que, comme il a eu un accident de voiture, il doit aller dans le couloir de ceux qui ont eu un accident. Mais ceux qui sont avec lui, ils disent « Non, non, tu ne dois pas aller là, parce que toi, ton accident de voiture, il était dû à quoi ? Au fait que tu avais bu, tu as bu et tu as eu un accident. Donc, en fait, tu n'as pas eu un accident, tu t'es suicidé à petit feu. » Et ça, il a du mal à concevoir cette idée. Pourtant, c'est vrai. La mort par accident, quand on a un accident de voiture et qu'on a bu avant, c'est forcément, quelque part, il y a une volonté d'en finir, même si elle n'est pas dite clairement. Profiter de la vie, alors que ceux qui m'entourent sont dans la souffrance, ce n'est pas non plus profiter de la vie que Dieu me donne. C'est satisfaire mon égoïsme. Si je n'ouvre pas ma maison, si je n'invite pas à déjeuner, si je ne fais pas profiter les autres de l'avantage d'avoir une grande voiture, c'est clair. Je ne profite pas de la vie. Parce que profiter de la vie, c'est se réjouir avec ceux qui m'entourent. C'est avoir du plaisir à leur faire du bien. Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Par conséquent, profiter de la vie, ce n'est absolument pas s'enfermer dans sa coquille. On va tous mourir et il faut profiter de la vie, mais il faut le faire avec sagesse. La sagesse, c'est aussi regarder la vie dans ce monde avec un point de vue différent des autres. Et ce sera l'objet de la dernière partie du message. Versets 11 à 13. À 12, pardon. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux vaillants hommes, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances, favorables ou non. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal, aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas mort dans un accident de voiture lorsque j'avais 18 ans? Qu'est-ce qui fait que je suis d'une génération privilégiée qui n'a pas connu la guerre, qui a droit à la retraite et à la sécurité sociale à taux plein? Qu'est-ce qui fait que j'ai eu la chance d'avoir une vie professionnelle, familiale, épanouie? Ma sagesse? Non. Mon courage? Encore moins. Mon intelligence? Je ne pense pas. Mon hérédité et mon éducation? Sûrement pas non plus. Ma vie, et Salomon le dit, a dépendu des circonstances et de circonstances favorables. Est-ce que ma vie est plus belle, plus riche, plus intéressante que celle d'un autre qui a vécu, lui, dans des circonstances de vie défavorables? La réponse de Salomon, et il a raison, c'est non. Dieu n'a pas voulu, je crois, donner un statut particulier à ses enfants dans la société des hommes. Il nous a placés là où nous sommes et notre vie dépend des circonstances, qu'elles soient favorables ou défavorables. Attention, je ne dis pas que Dieu n'intervient pas dans ma vie pour me protéger et m'encourager, mais je ne pourrais pas affirmer qu'il existe un statut particulier avec des conditions de vie favorables uniquement pour les chrétiens. Et c'est ce que dit Salomon dans ce qu'il dit: « La course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages, la richesse aux intelligents, ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. » Le privilège du chrétien, il est dans le fait qu'il est dans la main de Dieu. Et donc, le chrétien peut louer Dieu pour tout ce qu'il vit de bon. C'est ça la sagesse. Et il peut penser qu'il n'est jamais abandonné, même dans les circonstances défavorables. Il peut crier à Dieu. Et cela, c'est important de s'en souvenir lorsqu'on parle de la précarité de la vie. Les parents de Laetitia, donc la jeune fille dont je parlais tout à l'heure, n'avaient jamais pensé qu'un jour, un récidiviste allait croiser le chemin de leur fille, la violer et la tuer. Aujourd'hui, leur vie a basculé. Avant, sans doute, ils considéraient la vie sous des couleurs favorables. Aujourd'hui, ils sont comme des poissons capturés dans le filet fatal. Ils sont comme l'oiseau pris au piège. Ils ne peuvent rien faire. Le malheur est arrivé. Impossible de faire revenir Laetitia. Salomon ne donne pas de remède à cela. Pourtant, il y en a. En effet, la famille pourrait se venger et chercher un moyen pour tuer l'assassin qui, comme ça, ne recommencera plus jamais. Mais c'est un moyen inutile. Cela ne leur permettra pas de faire le deuil de leur fille. Mais il y a une autre solution dont Salomon non plus ne parle pas. C'est la solution Corrie ten Boom. Corrie ten Boom est cette femme qui a vécu avec sa sœur dans un camp de déportation pendant la dernière guerre. Sa sœur est morte dans le camp et elle a pu en sortir. Et une vingtaine d'années plus tard, elle a retrouvé à l'une de ses conférences le tortionnaire de sa sœur. Pouvait-elle lui pardonner? Je pense que ça a été très très dur pour elle, mais ce tortionnaire avait changé totalement de vie et il était devenu chrétien et il venait lui demander pardon pour ce qu'il avait fait. Et Corrie ten Boom a été capable de lui dire « Je te pardonne ». Est-ce que je serai capable de l'imiter? En conclusion, Dieu nous a donné la vie. Il nous permet de profiter de toutes les bonnes choses qui sont sous le soleil, mais toujours avec sagesse, c'est-à-dire avec la conscience que tout ce que nous avons vient de Dieu. Et donc, le conseil de Salomon, louez Dieu. C'est la principale chose que vous devriez faire dans votre vie. Dieu nous a donné la vie pour que nous en profitions. Mais il a encore fait mieux. Par le sacrifice de Jésus-Christ, son Fils, sur la croix, il nous a donné une autre vie, qui celle-là va au-delà de la mort physique. Une vie éternelle qui est notre espérance. Oui. Une seconde après notre mort, la vie éternelle avec Dieu ne sera plus une espérance. La vie éternelle sera une réalité. Jésus-Christ, quelques minutes avant de mourir, a dit au brigand qui était à côté de lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. » Cela parce que le brigand l'avait reconnu. Mais Jésus ne l'a pas dit à l'autre brigand. Sommes-nous certains d'avoir fait le bon choix?